Auditrice, auditeur de Radio Arc-en-Ciel, bonjour. Vous êtes bien sur l'émission Conseil et démaillage de droit pour tous. Restez au taquet, j'ai beaucoup d'informations à vous porter aujourd'hui. Et je fais bonjour à Didier, déjà notre technicien, et à tous les auditeurs, auditrices, notamment et particulièrement ceux qui me font un retour sur chaque émission, soit qu'ils ont aimé ci, j'ai des comme ci, comme ça. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Hein, ils m'envoient toujours un coucou pour ceux et celles. Hein. Donc, bonjour à toutes, hein, tous les auditeurs hein, de toute l'île, parce que je ne veux pas citer une ville par rapport à l'autre, puisque sinon, après, on me fait des reproches. Alors, je dis à tout le monde, à tous les auditeurs, c'était comme si j'étais avec vous, comme chaque jeudi. Eh bien, c'est avec plaisir que nous allons reprendre une émission aujourd'hui, Conseil et démaillage. Alors, hier soir, j'ai eu des nouvelles dans la nuit, alors j'étais obligée de rajouter sur mon programme aujourd'hui. Alors concernant le numéro spécial d'information, c'est les mesures d'urgence pour les entreprises et les associations en difficulté, pour les commerçants, de quelles aides pouvez-vous en bénéficier, et puis une évolution du Fonds de solidarité au 1er décembre 2020. Ça, c'est arrivé hier soir, j'ai rajouté. Alors nous avons une nouveauté sociale, ce qui change au 1er décembre 2020. Il y a plusieurs nouveautés sociales qui entrent en vigueur au 1er décembre. Elles concernent notamment les accidents du travail et la complémentaire santé. Ensuite, nous avons deuxième point, le chômage. Le Conseil d'État retoque le nouveau mode de calcul de l'allocation. Donc, il y a un décret qui a été déjà publié. Donc, j'expliquerai un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du chômage, hein, les nouvelles règles de calcul de l'allocation chômage. Nous avons en troisième point le FNE formation prise en charge réduite depuis le 1er novembre 2020. Il y a en quatrième point le transfert des EADIF sur le PCF. Alors, c'est quoi le DIF, c'est quoi le PCF? Alors, le DIF, c'est le droit individuel à la formation. Et le CPF, c'est le compte personnel de formation. C'est encore possible pour quelques mois. Là, je tire la sonnette d'alarme et on y revient dans un instant. Cinquième point, la formation professionnelle. Report du second acompte de la contribution unique confirmée. Hein. Soutien aux jeunes, en sixième point. Jean Castex annonce de nouvelles mesures dans la fonction publique, du nouveau en matière de santé et de la famille. Il y a une ordonnance publiée au journal officiel du 26 novembre qui modifie plusieurs dispositions des statuts des trois versants de la fonction publique relatives à la santé et à la famille. En neuvième point, nous avons un numéro pour les femmes handicapées victimes de violences. Je vous donnerai un numéro de téléphone, alors toujours gardez un stylo à côté de vous. D'ailleurs, je vais donner le numéro de téléphone et les coordonnées de Radio Arc-en-Ciel pour conseiller des maillages dans un instant, puisque j'ai omis de le dire en préambule. Alors, nous avons la police municipale. Les revendications sociales s'invitent dans le débat sur les polices municipales. En onzième point, petite enfance, une réforme des modes de calcul lancée en janvier. Hein? Il y a une dérogation pour élargir les horaires de crèche, possibilité d'accueillir jusqu'à 12 enfants en micro-crèche, accès à la médecine du travail pour les assistantes maternelles. Le gouvernement a dévoilé, jeudi 26 novembre 2020, les grands axes d'une réforme des modes de calcul des tout-petits mis en œuvre à partir de janvier. En deuxième point, un fonds pour soutenir les organisateurs de colonies de vacances. Hein? Le gouvernement vient d'annoncer la création d'un fonds de soutien pour les associations organisant des classes de découverte et des colonies de vacances. En treizième point, nous avons 2 minutes pour comprendre les emplois francs. Bien sûr, c'est 2 minutes parce que sinon, si je m'éternise, je n'arriverai pas à la fin. Ensuite, nous avons en 14e point la liste des activités du secteur particulièrement affecté par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 et les secteurs connexes bénéficiant de l'exonération et de l'aide au paiement des cotisations sociales. Il y a un décret du 2 novembre qui a élargi le dispositif de l'exonération. En 15e point, l'élargissement et renforcement des mesures de soutien aux entreprises. Ça sera juste des petites études. J'annonce seulement, hein, je ne ferai pas un développement dans tout ça. Hein. 16e point, cotisation foncière des entreprises, un report de l'échéance. Pour les patrons, là, les entreprises, là, hein, il y a un report de l'échéance. Adhérer à l'économie sociale et solidaire, adhérer à l'ESS. Je vous avais annoncé un jeudi de ça que le gouvernement avait prévu des sous pour toutes les entreprises et associations qui relevaient de l'économie sociale et solidaire. Hein? Alors donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez comme avantage pour aller vous adhérer à l'économie sociale et solidaire? En 18e point, le label financement participatif de la croissance verte. Comment ça marche? Un label, lorsque vous avez un label, je connais un label, c'est un espèce de logo, ils mettent dessus chaque marchandise et tout ça, c'est appelé un label. Hein. Ensuite, en 19 points, assistants familiaux, inquiétude autour de la négociation du futur statut. Et je ferai un point sur la refonte du statut jeudi prochain. Hein, ça, c'est concernant les assistants familiaux. J'annonce un petit peu avant, comme ça, vous saurez qu'il y aura cette émission-là et que vous allez pouvoir écouter. En 20e point particulier employeur, mesure exceptionnelle du chômage partiel pour les particuliers employeurs, hein, par exemple les aides à domicile. Ensuite, nous avons des questions par mail, hein, demande concernant un don à la radio, quelqu'un qui a fait un virement permanent d'adhésion à la radio, enfin, merci beaucoup, hein, ça relève pas de conseil d'émaillage, mais elle passe par mon biais pour que je demande à la comptabilité, je l'ai fait déjà, de la radio, pour demander si la mise en place de son prélèvement concernant l'adhésion à la radio arc-en-ciel a été bien exécutée. Voilà. Donc, j'ai passé l'information et je dis merci en tout cas, hein, de penser à cette participation à la radio arc-en-ciel qui est une association, vous le savez. Après, Céline, notre fidèle auditrice, relaie un remerciement à la radio arc-en-ciel concernant l'ASPA de sa belle-sœur qui a bien reçu, mais là, elle a une autre demande, un éclairage technique relatif à la copropriété. Alors, une auditrice de l'Est demande de l'aide dans sa démarche de recrutement de l'employé. Hein, c'est notre fidèle auditrice de l'Est qui nous a questionné récemment sur le droit de la maternité, etc. Hein, donc, je lui ai dit que je ferai un point spécifique et puis je lui renverrai par mail, puisque j'ai son numéro de téléphone et j'ai par mail. Alors, en parlant de mail, il y a un remerciement de nos auditeurs nantais. Hein, ils sont à Nantes. Eh bien, vous voyez bien que le mail, ça marche, puisque ça fait longtemps qu'ils font appel à Radio Arc-en-Ciel Conseil d'émaillage. Ils ont souvent remercié, notamment dans les trucs de succession. On a les dossiers de succession, d'autres démarches également. Et là, cette fois-ci, ils avaient demandé de l'aide à Conseil d'émaillage, parce qu'ils attendaient pas forcément que Conseil d'émaillage pour faire l'affaire, mais ils se sont débrouillés. Mais ça n'a pas marché au niveau d'un remboursement des vacances qu'ils avaient programmées à La Réunion. Ils avaient loué des locaux meublés. Et puis, ils ont eu des difficultés à se faire reporter ou rembourser les sommes. Alors, ils ont fait appel à Radio Arc-en-Ciel et je vous lirai le petit mail qui est tombé lui aussi hier soir. Et bon, ça, c'est pas grave quand il y a une étude à faire. Je remets à jeudi prochain. Et puis, ben, quand c'est possible, eh bien, je lis le mail de nos auditeurs, nos fidèles auditeurs nantais. Et ça, tout ça pour vous dire qu'avec le mail, c'est très efficace. On n'a pas besoin de venir me rencontrer, c'est dommage avec Covid, j'aurais bien aimé, mais c'est pas toujours possible et que le mail, ça marche. Voilà, donc je vais vous donner les coordonnées puisque j'ai omis de le faire au départ, puisque j'ai fait des petits remerciements à mes fidèles auditeurs auditrices. Et donc voilà pour ce qui concerne le téléphone radio, si vous avez des questions, hein, ou le technicien se fera un plaisir de vous accueillir, au 02 62 41 66 16, 02 62 41 66 16. Nous avons également un portable, mais je ne vous le donne pas tout de suite, parce que si vous m'appelez, comme vous l'avez déjà fait en direct, eh ben, je ne peux pas vous répondre, puisque je suis à la radio, donc je ne peux pas vous répondre. Je vous donnerai le numéro de téléphone à la fin, j'espère trouver un petit temps à la fin, si tout se passe bien. Alors, donc, pour ce qui concerne la première chose, ce qui change au 1er décembre 2020, donc, c'est déjà passé, mais c'est à partir du 1er décembre, plusieurs nouveautés sociales entrent en vigueur au 1er décembre. Elles concernent notamment les accidents, les complémentaires santé. Alors, plusieurs nouveautés, donc, la fin du délai pour ouvrir un compte accident de travail, maladie professionnelle en ligne. Ça concerne particulièrement les employeurs. Mais lorsque je dis à nos auditrices auditeurs que il y a des, comment je veux dire, il y a des règles pour les, que je dis pour les patrons, hein, pour vos patrons. Mais bien sûr, quand vous êtes au courant, eux, ils sont au courant puisque le conseil des maillages, c'est le droit pour tous, les employeurs, les employés, etc. Et vous, en tant qu'employé, eh bien, quand je vous donne des informations, vous êtes au courant de ce qui se passe. À partir du 1er janvier 2021, la notification dématérialisée du taux accident de travail et maladie professionnelle devient obligatoire pour les entreprises du régime général d'au moins 10 salariés. Jusqu'à présent, elle n'était obligatoire que pour les entreprises d'au moins 150 salariés. D'accord ? Pour permettre cela, eh bien, les patrons doivent ouvrir un compte accident de travail et maladie professionnelle avant le 1er décembre 2020, si l'entreprise n'en possède pas déjà un. L'inscription se fait sur le site netentreprise.fr. Et nécessite les informations suivantes. Alors, donc je disais donc, pour permettre cela, vous devez ouvrir un compte accident de travail maladie professionnelle, vous, c'est-à-dire les patrons, avant le 1er décembre 2020, si votre entreprise n'en possède pas déjà un. L'inscription se fait sur le site net-entreprise.fr. Hein, et bien, vous aurez besoin des informations suivantes, votre numéro de SIRET, le nom, prénom, numéro de téléphone et courriel. Voilà ce que vous avez besoin. Eh bien, il faut noter que si vous avez plusieurs établissements, vous pouvez les gérer à partir d'un seul compte. Hein. Une fois le compte accident de travail maladie et professionnel ouvert, l'abonnement au service dématérialisation se fera automatiquement pour l'entreprise en décembre 2020. Attention, l'absence d'adhésion au téléservice compte accident de travail maladie professionnel entraîne l'application d'une pénalité fixée à 0,5% du plafond mensuel de sécurité sociale, hein, par salarié ou assimilé relevant de l'entreprise ou l'établissement en faute pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés. Et 1% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 20 et moins de 150 salariés. Et 1,5% du plafond mensuel de sécurité sociale pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ou assimilés. D'accord ? 150 salariés. Donc, il y a un délai d'instruction complémentaire accident du travail maladie professionnelle de la caisse. Il y a le fin de délai dérogatoire. Après, il y a aussi la résiliation sans frais du contrat complémentaire santé après un an. Hein ? Donc, il faut savoir que cette nouveauté-là, la loi de 2019 avait prévu qu'à partir du 1er décembre 2020, au plus tard, il allait être possible de résilier ou de dénoncer un contrat de complémentaire santé après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalité. Attention, j'ai entendu quelques personnes l'annoncer aussi et qui disaient, hein, la presse ou quoi, j'avais vu ça quelque part, et qui disaient qu'on pouvait dorénavant aller hop, on coupe. Mais non, il y a quand même un délai à respecter, hein. Et puis, ça sera sans frais ni pénalité, hein, mais il y a quand même un petit délai à respecter. Le décret vient d'être publié et permet l'entrée en vigueur de cette mesure au 1er décembre, y compris pour les contrats et adhésions en cours de cette date. D'accord ? Ce texte précise les modalités relatives au droit de résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé. Notez que ce droit de résiliation est mentionné dans chaque contrat d'assurance et en outre, c'est-à-dire en plus, rappelé avec chaque avis d'échéance de prime et de cotisation. De prime ou de cotisation. Cette obligation est toutefois réputée satisfaite si votre assureur le mentionne sur l'avis annuel de cotisation ou la communication annuelle qu'il doit vous adresser. Alors là, il s'agit de la possibilité de rompre un contrat de complémentaire santé. Hein, je t'y connais quoi il est, hein, avant l'expiration du délai. Mais dans les contrats d'assurance maladie, il faut faire très attention parce que nous avons les mutuelles, nous avons les assurances. Eh bien, je vous dis tout de suite qu'il est très important de bien vérifier avant de quitter. parce que nous avons des mutuelles et nous avons des assurances mutuelles. J'avais fait la différence, qu'est-ce que c'est une mutuelle et qu'est-ce que c'est une assurance mutuelle. Alors, c'est vrai que ce décret vous autorise désormais à rompre votre contrat, votre complémentaire santé, mais il faudra faire très attention parce que il est très important parce que pourquoi ? Parce que peut-être que vous allez perdre des avantages que vous aviez déjà acquis dans l'ancien système, dans votre mutuelle actuelle ou votre assurance actuelle. Il ne faut pas oublier ça. Mais si jamais vous avez des questions, Conseil Démaillage est là pour vous donner des renseignements comme d'habitude. Alors nous passons au deuxième point. À la formation. Au deuxième point, c'est le chômage. Alors voilà, ça concerne le chômage, le deuxième point. Le Conseil d'État retoque le nouveau code de calcul, retoque, il dit au bon, il revient dessus, le mode de calcul de l'allocation. Les nouvelles règles de calcul de l'allocation chômage, qui n'ont pas été appliquées du fait de la crise sanitaire, portent atteinte au principe d'égalité, a tranché le Conseil d'État. Il a retoqué, il a tranché. Le ministre du Travail a annoncé une mise en conformité d'ici le 1er avril 2021. Le Conseil d'État s'est prononcé dans un arrêt du 25 novembre sur plusieurs recours formés contre l'un des deux décrets du 26 juillet 2019 qui ont réformé le régime de l'assurance chômage. Je vous avais annoncé, souvenez-vous, qu'il y avait la réforme de l'assurance chômage que je suivais, que Conseil des maillages suivait pour vous, etc., etc. Après, il y a eu la crise Covid, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, mais il y a quand même un petit revirement. Alors, les 6 requêtes émanaient d'organisations syndicales et patronales. Ce décret, pris à l'initiative du gouvernement, faute d'accord entre les partenaires sociaux, avait notamment pour effet de durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage, ainsi que les modalités d'indemnisation des personnes privées d'emploi. Donc, c'est un petit peu remis à jour. Et Conseil des maillages de Radio Arc-en-Ciel suit ça pour vous, pour ce qui concerne la réforme de l'assurance chômage. Ne vous inquiétez pas, je suis ça pour vous, au taquet. Alors, le FNE, formation prise en charge réduite depuis le 1er novembre 2020. Le dispositif de FNE formation permet de financer la formation suivie par les salariés placés en activité partielle. Alors, au printemps dernier, le dispositif a été modifié pour qu'il soit plus accessible. Mais depuis le 1er novembre 2020, il est réservé aux seuls salariés en activité partielle. La prise en charge des coûts de formation est également réduite. Alors, avant de vous donner un petit peu les conditions d'accès, enfin, il y a des conditions d'accès. Il y a le changement qui est au 1er novembre 2020, les conditions d'accès. Bon, ben, je vais vous donner succinctement. Alors, lors du premier confinement, le gouvernement avait pris des mesures afin d'encourager le recours à la formation des salariés placés en activité partielle et ainsi mettre à profit ce temps d'inactivité. Mais pour cela, le dispositif FNE pour formation a été ouvert à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur. Elles sont éligibles dès lors que la demande d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée a été validée. À l'exception des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, tous les salariés placés en activité partielle sont éligibles au dispositif FNE formation. Si un salarié a un contrat de courte durée, il peut également bénéficier du dispositif, mais il doit demeurer salarié jusqu'à l'expiration de la durée de sa conversion. Pendant la durée d'activité partielle, le salarié peut ainsi renforcer ses compétences professionnelles et son employabilité. Les formations éligibles au dispositif FNE concernent les actions de formation, les bilans de compétences, les actions de validation des acquis de l'expérience, AVAE, vous le savez, se déroulant pendant l'activité partielle. Les employeurs peuvent engager à maintenir dans l'emploi des salariés formés pendant une durée au moins égale à la durée de la convention FNE formation. Alors, les changements au 1er novembre 2020. Depuis le premier confinement, le dispositif FNE formation permet de financer la formation suivie par des salariés placés en activité partielle et activité partielle de longue durée, la PLD. Mais aussi par les autres salariés de l'entreprise qui n'étaient pas bénéficiaires de l'activité partielle. Mais cette possibilité a pris fin le 31 octobre 2020. Depuis le 1er novembre 2020, le dispositif est exclusivement réservé aux salariés placés en activité partielle ou APLD, exclusivement, il veut dire autres, que ça, pas les autres, hein, c'est que les réservés que pour les salariés placés en activité partielle. Alors, concernant la prise en charge financière, l'ensemble des coûts pédagogiques est assuré par le dispositif FNE formation à hauteur de 100% sans plafond pour les salariés en activité partielle pour les dossiers déposés au plus tard 31 octobre 2020. La rémunération du salarié est financée par l'activité partielle. À compter du 1er novembre 2020, l'aide est réduite. Elle est fixée à 70% des coûts pédagogiques pour les salariés placés en activité partielle et à 80% avec un plafond moyen de 6 000 euros pour un salarié placé en APL dépendant un an, par an, pardon, par an. 6 000 euros pour un salarié placé en APLD par an. Il faut noter que seul le confinement privé, il faut noter que seul le cofinancement, pas le confinement, hein, le cofinancement privé est possible. Les OPCO peuvent donc mobiliser les contributions conventionnelles ou volontaires qui constituent les fonds privés. Alors, c'est quoi un OPCO, là? Le FNE, c'est depuis avril 2020, l'État a décidé de mobiliser le dispositif formation pour prendre en charge 100% des frais pédagogiques. Hein, c'est pour ce qui concerne le FNE. Et c'est quoi le OPCO? Eh bien, c'est au service des salariés des entreprises, les OPCO, qui sont des opérateurs de compétences, ont remplacé depuis début 2019 les organismes paritaires collecteurs agréés que l'on appelait communément OPCA. Donc, l'un des rôles des OPCA était de collecter les fonds de la formation professionnelle auprès des entreprises. Mais ce n'est plus d'actualité. Les opérateurs de compétences qui ont remplacé les OPCA depuis 2019 ont des missions un peu différentes. Donc maintenant, ce n'est plus OPCA, c'est désormais OPCO. Hein, voilà, c'est pourquoi je donne des explications, parce que sinon, les patrons, ils sont au courant, mais c'est juste pour les employés, pour qu'ils soient un petit peu au courant de ces affaires-là. Voilà pour ce qui concerne le FNE Formation, prise en charge réduite depuis le 1er novembre 2020. Alors, ce qui est tombé dans la nuit, parce que j'ai rajouté ça à mon programme, j'allais pas attendre jeudi prochain pour vous l'annoncer, les mesures de soutien aux entreprises. Il y a un numéro spécial d'information sur les mesures d'urgence pour les entreprises et les associations en difficulté. Depuis le lundi 2 novembre à 9h, un numéro spécial d'information sur les mesures d'urgence pour les entreprises en difficulté est effectif. Je vous donne le numéro 08-06-3x0-245. 08-06-3x0-245. Il est accessible depuis le vendredi de novembre, de 9h à 12h, puis de 13h à 16h. Alors, c'est pourquoi ? C'est pour se renseigner et informer les professionnels les plus fragiles face à la crise sanitaire. Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui vont à la banque, qui ne peuvent pas avoir leur prêt, qui ont des difficultés, qui ne savent pas s'ils ont droit ou pas à la prime Covid, est-ce que s'ils ne sont pas fermés, pour les orienter, enfin voilà. C'est pour renseigner et informer les professionnels les plus fragiles face à la crise Covid, de la crise sanitaire. Alors, pour informer les professionnels dont l'activité doit faire face à la crise Covid-19, un nouveau numéro d'appel est mis en place. 08-06-3x0-245. Hein? Eh bien, l'appel est non surtaxé. Hein? Il s'agit du prix d'un appel local. Alors, c'est pour orienter les professionnels. Ce numéro d'appel est conçu pour renseigner et orienter les professionnels vers les aides d'urgence mises en place. Les reports de charges ou d'impôts, les prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité, l'activité partielle, etc. Ce service est assuré conjointement par la Direction générale des finances publiques, la DGFiP et l'URSSAF. Elles mobilisent chacune 2 centres d'appel afin de mener à bien cette mission d'information. Le numéro s'inscrit en complément de la plateforme Internet qui existe déjà, coronavirus COVID-19, les mesures de soutien aux entreprises. Ça, c'est en plus. Je le répète parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a petites entreprises qui sont en difficulté, qui sont allées vers leur banque, qui n'ont pas trouvé de solution. Eh bien, voici le numéro que vous devez appeler pour vous renseigner sur ce que vous avez droit et comment faire. Mais bien sûr, Conseil d'émaillage de Radio Arc-en-Ciel est là aussi, puisque Conseil d'émaillage vient compléter tous ces services-là, tous les services publics qui vous sont dédiés. Alors, en complément des services existants, eh bien, en complément de ces services, ce numéro d'information est proposé. Celui-ci ne se substitue pas au service référent bien connu des professionnels. Les agents de ces plateformes ne pourront pas accéder aux dossiers personnels. Afin de connaître l'avancement d'une demande d'aide en cours ou bien pour toute question nécessitant un accès aux données fiscales et sociales de l'entreprise, il convient de passer par les canaux habituels, hein, les centres de référence, la messagerie professionnelle en ligne, etc. Ça, il veut dire azote. Que s'ils ont appel à ce numéro-là. Allez pas demander aux gars d'autres dossiers d'un numéro de dossier, nanana, non. Là, aux autres appels, pour donner aux autres des informations sur un report de charges des autres impôts, comment il faut faire. Le prêt garanti par l'État, que ça, il faut faire. Les fonds de solidarité, etc. eh bien là, je te demande, je te pose des questions, il y a des autres, mais ça va pas dans votre dossier. Dans votre dossier, ça va toujours dans votre centre de référence et votre messagerie de compte professionnel en ligne. D'accord? Hein, pour les professionnels de santé. Et dans ces mêmes nouvelles, là, il y a pour les commerçants maintenant, de quelle aide pouvez-vous bénéficier? Afin de répondre aux difficultés des commerçants frappés par les conséquences économiques de la crise sanitaire Covid-19, eh bien, des aides ont été mises en place par le gouvernement. Par ailleurs, vous pouvez être accompagné pour adapter votre activité à la situation sanitaire. Hein? Voilà, par exemple, quelle solution trouver? Mon commerce est fermé administrativement. Eh bien, sollicitez une indemnisation du Fonds de solidarité. Si vous êtes commerçant et que votre commerce fait l'objet d'une fermeture administrative, vous bénéficiez d'un droit d'option entre une aide mensuelle ou une indemnisation d'une partie de votre chiffre d'affaires. Ça fait longtemps que je vous expliquais comment en bénéficier et comment faire pour faire le calcul. Et vous pouvez bénéficier d'une exonération totale de vos charges sociales. Vous pouvez demander une remise d'impôt direct. Vous pouvez réduire le montant de vos loyers. Vous pouvez mettre en place le chômage partiel. Vous pouvez poursuivre votre activité autrement. Alors, si votre commerce reste ouvert, mais le chiffre d'affaires a baissé, eh bien, vous sollicitez une indemnisation de fonds de solidarité, vous demandez un report de charges sociales, vous demandez à obtenir une remise d'impôt direct et vous mettez en place le chômage partiel. Hein? Donc, si vous souhaitez renforcer votre trésorerie et solliciter un prêt garanti par l'État, eh bien, jusqu'au 30 juin 2021, vous pouvez souscrire un prêt garanti par l'État auprès de votre établissement bancaire habituel. L'amortissement du prêt garanti par l'État pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires. Enfin, l'État pourra accorder des prêts directs si votre entreprise ne trouve aucune solution de financement. Alors voilà. Ça, c'est pour la question qui a été posée par un auditeur concernant sa demande de prêt à la banque, l'aide garantie par l'État, etc. N'oubliez pas d'appeler à ce numéro-là et avoir tous les renseignements que vous avez besoin. Mais sachez que Conseiller Démaillage de Radio Arc-en-Ciel est là pour vous aider. Hein. Donc, je reste au taquet sur toutes ces informations. Je vais quand même continuer sur les nouvelles que j'ai reçues dans la nuit, c'est comme ça. Alors, il y a une évolution du fonds de solidarité au 1er décembre 2020. Hein? C'est lié au coronavirus. Ben oui, ben, il y a des fonds, il y a des aides. Je suis là, conseiller d'émaillage de Radio Conseil, là pour vous donner. Hein, pour les entreprises fermées administrativement, hein, à partir du 1er décembre, le dispositif du fonds de solidarité évolue en profondeur pour soutenir les secteurs les plus exposés à la crise en y intégrant les entreprises de taille intermédiaire. Intermédiaire veut dire entre les gros et les petits. Alors, c'est à partir du 1er décembre. Alors, pour ce qui concerne les entreprises fermées administrativement, s'agissant des secteurs fermés, les restaurants, les bars, les discothèques, les salles de sport, etc., pour ces entreprises, le fonds de solidarité sera ouvert et ce, quelle que soit leur taille. D'accord ? Quelle que soit la taille de l'entreprise. Hein. Pour le mois de décembre, elles bénéficieront d'un droit d'option entre une aide, un droit d'option, il va dire, choisi. D'accord ? entre une aide allant jusqu'à 10 000 euros ou bien une indemnisation de 20% du chiffre d'affaires mensuel dans la limite de 200 000 euros par mois. Cette aide sera attribuée à chaque entreprise sur la base de la déclaration de son numéro SIRENE. Le chiffre d'affaires de référence retenu pour le calcul de l'aide pourra être le chiffre d'affaires de décembre 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen constaté en 2019. D'accord, donc il fait la moyenne. Tant que ces entreprises seront fermées, les fonds de solidarité seront maintenus. En deuxième point, pour toutes les entreprises du secteur du tourisme, événementiel, culture et sport. Pour le mois de décembre, les entreprises des secteurs de tourisme, événementiel, culture et sport, c'est en S1, j'avais dit toutes ces entreprises-là dans le secteur S1, qui ne ferment pas, mais qui subsistent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%, auront accès au fonds de solidarité sans critère de taille. Elles pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 10 000 euros ou d'une indemnisation de 15% de leur chiffre d'affaires mensuel. Pour les entreprises qui perdent plus de 70% de leur chiffre d'affaires, l'indemnisation atteindra 20% du chiffre d'affaires mensuel dans la limite de 200 000 euros par mois. Cette aide sera attribuée à chaque entreprise sur la base de la déclaration de son numéro SIRENE. Le chiffre d'affaires de référence retenu pour le calcul de l'aide pourra être chiffré, pourra être le chiffre d'affaires de décembre 2019. Le chiffre d'affaires 2019. Ou bien, le chiffre d'affaires mensuel moyen constaté en 2019. Donc, tu fais la moyenne. En troisième point, pour les fournisseurs des entreprises du secteur du tourisme et des secteurs liés, c'est-à-dire les fournisseurs des entreprises, les fournisseurs, ceux qui fournissent à ces entreprises du secteur S1 bis. Pour le mois de décembre, les entreprises du secteur lié S1 bis de moins de 50 salariés qui enregistrent des pertes d'au moins 50% du chiffre d'affaires pourront bénéficier d'une aide pouvant aller jusqu'à 10 000 euros dans la limite de 80% de la perte de chiffre d'affaires. Sont notamment concernées les activités de commerce de gros, blanchisserie, etc. qui sont indirectement touchées par la crise. Pour toutes les autres entreprises, ça c'est le quatrième point et la fin, pour toutes les autres entreprises que je n'ai pas citées tout à l'heure, pour l'ensemble des entreprises de moins de 50 salariés qui n'apparaissent pas au secteur qui vient d'être évoqué, donc, précédemment que je viens de vous dire, et qui justifie une perte de 50% de leur chiffre d'affaires, le fonds de solidarité sera prolongé pour le mois de décembre. Ces entreprises continueront à bénéficier d'une aide pouvant aller jusqu'à 1 500 euros. Pour le mois de décembre, l'ensemble de ces dispositifs de soutien représente un coût mensuel de 3,5 milliards d'euros. Alors voilà. Je vous ai tout dit, ou du moins pour tout ce qui concerne les entreprises, les petites, les moyennes, comment ça se passe, etc. Mais si vous avez noté le numéro de téléphone que je vous ai donné, pour toutes les questions que je viens d'exposer, vous allez pouvoir avoir des explications et des détails avec le numéro que je vous ai donné tout à l'heure en téléphonant à ce numéro-là. Sinon, vous adressez un mail ou un texto à conseil@radioarc-en-ciel.re ou au numéro de téléphone que je vous donnerai à la fin, au portable pour un texto, ou alors vous appelez à Conseil d'émaillage de Radio Arc-en-Ciel. Ensuite, nous passons à la formation professionnelle. Le report du second acompte de la contribution unique confirmée depuis le mois de l'OPECO, Alors, le transfert des heures de DIF sur le PCF, c'est encore possible pour quelques mois. Je vous l'avais déjà annoncé, j'ai sonné la petite cloche, gling, 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 n'oubliez pas de transférer vos comptes, parce qu'après, quand il est trop tard, personne ne peut rien faire. Alors, c'est quoi le transfert des heures de DIF? Le droit individuel à la formation, c'est le DIF, a été remplacé en 2015 par le compte personnel de formation, c'est-à-dire au lieu de être DIF, le compte individuel de formation. Depuis 2015, on appelle ça le compte personnel de formation. Mais si le DIF a disparu depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis 2015, les heures qui avaient été acquises, c'est-à-dire les autres lavées en poche au titre de DIF, sont quant à elles encore utilisables à condition d'être transférées sur le CPF. N'oublie pas, attention, il existe une date butoir pour faire ce transfert qui vient d'être repoussée par la loi autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Alors, le transfert des EADIF sur le PCF, agir avant le 30 juin 2021. J'aurai le temps d'encore, j'espère, si je n'oublie pas, de vous tirer la sonnette d'alarme qu'il faut aller avant le 30 juin 2021. Alors, afin d'éviter que les heures acquises au titre du DIF ne soient perdues, eh bien, les salariés peuvent transférer celles qui n'ont pas été utilisées sur leur compte personnel, et même le patron peut le faire, le compte personnel de formation. Rappelons qu'avec le DIF, le droit individuel de formation, les salariés pouvaient cumuler jusqu'à 20 heures de formation par an sur une période de 6 ans sans excéder 120 heures. Initialement, c'est-à-dire au début, il fallait faire le transfert au plus tard au 31 décembre 2020, quand l'avait changé, l'avait mis au CPF. Mais dans les faits, selon les derniers chiffres communiqués fin octobre par le ministère du Travail, seul un salarié sur quatre avait déjà procédé à cette inscription. Alors, la date limite a donc été repoussée au 30 juin 2021 par la loi autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Hein, je vous l'avais annoncé, j'avais déjà sonné la cloche. Là, je ressonne. Le transfert des heures DIF sur le PCF accompagnait le salarié dans sa démarche. Le patron devrait accompagner le salarié. Le report des heures DIF n'est pas automatique. Il est donc important pour les employeurs d'informer leurs salariés pour qu'ils créditent leurs heures DIF sur le compte personnel de formation. Hein? Eh bien, pour faire cela, il y a possibilité aussi de faire un courrier à tous les salariés. En effet, un grand nombre de salariés ignorent qu'ils peuvent encore utiliser les droits qu'ils avaient acquis au titre du DIF. Or, cette inscription n'oblige pas les salariés à procéder à une formation, c'est-à-dire, c'est pas parce que ça va inscrire à Zot ou Zot ça fait Zot report pour inscrire Zot DIF dans le CPF, dans Zot compte personnel, qu'il veut dire Zot il veut faire formation. Non, c'est quand même qu'il épargne ça. Zot ça tire Zot droit à formation, le DIF, Zot il s'en remet dans Zot CPF, Zot compte personnel de formation, pour Zot garder si Zot a besoin. D'accord? Il ne s'est pas dit à cause de ça, faire ça, va envoyer Zot en formation. On a un peu aimé parler formation. Pas grave, mettre ça dans le compte de formation. Alors, en pratique, les salariés ont la possibilité de retrouver leur solde de DIF sur différents documents. Parce que normalement, Zot peut trouver ça sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou 2015. Ou bien sinon, vous pouvez trouver ça sur l'attestation de droit au DIF que l'employeur a fourni à cette époque-là. L'employeur devait vous envoyer une attestation de droit au DIF. Et, ou bien alors, vous pouvez trouver ça aussi sur votre certificat de travail qui vous est remis par le ou les derniers employeurs au 31 décembre 2014. Alors, notez que les heures de DIF doivent être saisies directement en ligne sur le site moncompteformation.gouv.fr et le montant saisi fera l'objet d'un contrôle à la première demande de formation. Dès lors que ces droits sont inscrits, ils seront conservés indéfiniment, c'est-à-dire qu'ils conservent tout le temps, pendant tout le temps que vous êtes salarié, mais dans la limite du plafond applicable, à savoir en principe 5 000 euros. Tu vois, il parle euro là. Là, ça met sur votre compte, on est sûr là. Quand il dit le droit à la formation, on n'a pas trop envie. Mais comme il dit 5 000 euros, 8 000 euros là, ça va mettre là. Alors donc, dès lors que les droits sont inscrits, eh bien, ils seront conservés indéfiniment, mais dans la limite du plafond applicable, à savoir, c'est quel plafond? 5 000 euros ou bien 8 000 euros dans certains cas, notamment pour les travailleurs peu qualifiés. C'est-à-dire, pour ça, tu n'as pas un trop diplôme, eh bien, on aura 8 000 euros. Alors voilà, quand il parle à Zot Euro, n'oublie pas les arranges de compte de formation avant juin 2021. Si Zot ne comprend pas, Conseil d'émaillage de Radio Arc-en-Ciel va donner à Zot les explications. Sinon, la donne à Zot le site où ça il faut aller. D'accord? Il faut aller sur mon compte formation, en un seul mot, moncompteformation.gouv.fr. D'accord? Il faut aller saisir ça. Alors ça, ça émane de la loi du 14 novembre 2020 qui autorise la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. C'est le journal officiel du 15 novembre. Alors, Zot, il voit bien que Conseil d'émaillage de Radio Arc-en-Ciel, il reste au taquet. Il donne à Zot des informations claires et nettes et surtout officielles. Voilà pour ce qui concerne le transfert de DIF sur le compte personnel de formation. Alors, puisque nous parlons de formation, nous ça parle encore de la formation professionnelle, le report du second acompte de la contribution unique confirmée. Ça, c'est pour, il concerne le patron, ça. Hein. Depuis quelques mois, des OPCO communiquent sur le rapport de l'échéance du second compte de la contribution unique de formation professionnelle au titre de l'année 2020 des employeurs de 11 salariés au plus. De 11 salariés et plus. Alors, ce report vient d'être confirmé par un décret du 25 novembre 2020 au journal officiel. La date butoir est fixée au 25 novembre. Après cette date, votre contribution pourra être majorée Alors voilà pour ce qui concerne le report du second acompte de la contribution unique. Ça, c'est pour les patrons. Hein. Ensuite, il y a le calendrier des acomptes. Donc, au titre de l'année 2020, les employeurs de 11 salariés et plus s'acquittent de leur contribution unique de formation professionnelle. Donc, premier acompte au 1er mars 2020 qui correspond à 60% du montant dû et un second acompte, 38% du montant dû, qui est versé le 15 septembre 2020. Avant le 15 septembre 2020. Alors, le solde est acquitté avant le 1er mars 2021. L'assiette sur laquelle les deux comptes sont calculés sur la masse salariale de 2019 ou en cas de création d'une entreprise, une projection de la masse salariale 2020. Une projection, il veut dire, il projette, il fait une espèce de simulation, il projette sur la masse, hein, sur la masse salariale. Alors, le report est confirmé pour ce qui concerne la formation professionnelle, mais on attendait un report de la date limite de versement du second acompte. Des OPCO avaient communiqué sur ce changement de date, mais elle devait être confirmée par décret. Décret qui a été publié au journal officiel du 25 novembre 2020. Il confirme donc le report du versement. Hein, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de COVID-19, eh bien les employeurs qui ne se sont pas acquittés du versement de l'acompte selon l'échéancier initialement prévu sont autorisés à verser les sommes dues à ce titre et au plus tard le 25 novembre 2020. Ça fait longtemps qu'il est passé, hein, mais enfin bon, il fallait le faire. Aucune sanction ne sera appliquée si vous avez effectué le versement le 25, parce que c'est si vous avez fait le jour même. Mais il en sera autrement si votre versement est effectué à partir du 26 novembre 2020 ou que vous n'avez pas versé l'intégralité du montant dû pour cette échéance. Il est à noter un autre changement. Il concerne le calcul de l'acompte. Vous avez deux possibilités. L'acompte peut être calculé au regard de la masse salariale 2019 ou bien, si celle-ci est plus faible, la projection de la masse salariale pour 2020. Pour rappel, à l'origine, la projection de la masse salariale pour 2020 ne devait s'appliquer qu'en cas de création d'entreprise. Alors, mais cette possibilité est liée aux conséquences de la crise sanitaire et qui a contraint les entreprises à réduire leur activité, mettre en place l'activité partielle. Alors, ce report du second acompte entraîne également un report de l'échéance à laquelle les OPCO reversent ces sommes à France Compétences et ils ont jusqu'au 30 novembre 2020. Alors, ce sont des dates qui sont passées, mais je le rappelle parce que si vous voyez que vous avez un plus à payer, etc., eh bien, vous comprendrez qu'il y a eu un changement à ce niveau-là. Nous venons maintenant dans la fonction publique, du nouveau en matière de santé et famille. Alors, une ordonnance publiée au journal officiel du 26 novembre modifie plusieurs dispositions des statuts des trois versants de la fonction publique relatives à la santé et la famille. Les trois versants de la fonction publique, tu connais quoi il est? C'est la fonction publique territoriale, fonction publique d'État et fonction publique hospitalière. Territoriale, commune, département, région. Hospitalière, ça tu travailles dans l'hôpital. Et de l'État, c'est tous les autres services de l'État. D'accord? Eh bien, prévu par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, depuis l'année dernière, Conseil d'émaillage vous a parlé un petit peu de cette loi, vous a développé un peu cette loi qui était applicable, mais certains articles qui attendaient des décrets d'application, eh bien, cette loi du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique, à partir de là, eh bien, il y a une ordonnance qui modifie notamment les instances médicales. Les actuels comités médicaux et commissions de réforme seront remplacés par une instance unique, le Conseil médical. Ce dernier sera compétent en matière de congés pour raison de santé et de congés pour invalidité temporaire imputable au service, le CIVIS. Un décret viendra préciser les modalités d'organisation et le fonctionnement des conseils. Alors, voyez, là, il y a une ordonnance, mais il y aura des décrets qui vont être publiés. Conseil d'émaillage de radio-arc-en-ciel reste au taquet, bien sûr. Relevons également que les dispositions de l'ordonnance relative aux congés parentaux renvoient aux articles du Code du travail applicables aux salariés du privé. Le gouvernement précise, dans un rapport joint à l'ordonnance, que ces renvois permettront que toute réforme future des durées de congés liées à la parentalité dans le secteur privé seront applicables aux fonctionnaires, notamment celles relatives à l'allongement des durées de congés de paternité et de l'accueil de l'enfant et du congé d'adoption prévu par le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2021. Ça, je vous l'avais déjà annoncé. Ce projet de loi de financement de sécurité sociale et je disais pourquoi elle vient nous parler de projet de loi de financement de sécurité sociale, voilà, et bien c'est là-dedans qu'on retire les informations officielles pour vous, hein. Et bien tout ce que je viens de vous dire émane d'une ordonnance du 25 novembre 2020 et un rapport relatif à l'ordonnance. Alors, pour ce qui concerne cette ordonnance, eh bien, l'ordonnance a pour objectif d'aider l'ensemble des agents à mieux concilier vie de famille et professionnelle en clarifiant les droits de congés liés aux charges parentales. Charges parentales, je veux dire votre charge en tant que parent, d'accord? Elle allonge notamment de 30 jours le congé de paternité. Là, tu connais, comme la bande papa aussi n'a congé, n'a pas rien maternité, rien que pour maman, il y en a pour papa. Alors, eh bien là, elle rallonge notamment de 30 jours le congé paternité et d'accueil de l'enfant pour les agents publics lorsque l'enfant est hospitalisé après la naissance, à l'instar des salariés du secteur privé. À l'instar, il veut dire autres, à l'exemple, c'est-à-dire ça me vient des autres tout à l'heure là, que le gouvernement il veut que le secteur public il bénéficie pareil dans le secteur privé. L'ordonnance applique par ailleurs immédiatement aux agents publics l'allongement du congé de paternité et d'accueil de l'enfant qui est prévu pour les salariés du secteur privé par le projet de loi financement sécurité sociale pour 2021, en cours d'examen par le Parlement. L'ordonnance a également pour objectif de soutenir les agents publics qui rencontrent des difficultés de santé. Hein? Après, nous avons bien sûr des mesures en faveur de santé des agents, le fractionnement des congés de longue maladie et de longue durée, qui permet aux personnes atteintes d'une longue maladie d'alterner des périodes de soins et de périodes de travail sécurisées. Je ne vais pas développer tout ça parce que ça va être trop long. Si vous avez des questions là-dessus, eh bien, Conseil des maillages de Radio Arc-en-Ciel est là pour vous donner. Nous abordons maintenant le dossier de petite enfance, une réforme des modes d'accueil lancée en janvier. Alors, la dérogation pour élargir des horaires de crèche, possibilité d'accueillir jusqu'à 12 enfants en micro-crèche, accès à la médecine du travail pour les assistantes maternelles. Le gouvernement a dévoilé jeudi 26 novembre les grands axes d'une réforme de mode d'accueil des tout-petits mise en œuvre à partir de janvier. Cette réforme, démarrée il y a plus de 2 ans et qui s'achève après 8 mois de concertation, est formalisée par la loi d'accélération et simplification de l'action publique, la SAP, la ZAP, qui doit être promulguée en décembre. Eh bien, cette loi va être promulguée, eh bien, on attend et on est au taquet pour attendre cette loi et vous donner des informations là-dessus. Alors, l'objectif principal de cette loi est la clarification avec des règles désormais compréhensibles et cohérentes, mieux acceptées par les professionnels de terrain, mieux appliquées par les autorités locales et qui rassureront les parents quant aux garanties de sécurité et la qualité de l'accueil de leurs enfants. Et c'est ce qu'a présenté dans un communiqué le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Alors, parmi la vingtaine de mesures, hein, il y a 20 mesures, il est notamment posé le principe d'un contrôle des antécédents judiciaires de tous les professionnels d'accueil du jeune enfant, y compris pour les gardes à domicile. Hein? C'est un contrôle des antécédents judiciaires, c'est-à-dire ça contrôler tout le bandeau où il travaille dans le service de petite enfance, hein, que ce soit garde à domicile ou bien accueil et tout ça, de petite enfance, eh bien, ils contrôlent votre casier judiciaire. Voilà ce qui est prévu pour eux. Enfin, je vais dire ça pour faire une petite pause après, un fonds pour soutenir les organisateurs de colonies de vacances. Alors, le gouvernement vient d'annoncer la création d'un fonds de soutien pour les associations organisant des classes de découverte et de colonies de vacances. Les organisateurs de colonies de vacances et la classe de découverte subissent de plein fouet la crise sanitaire. Alors, les premiers ne pourront toujours pas accueillir d'enfants durant les vacances de Noël. Et les seconds connaissent une activité quasi nulle depuis la rentrée scolaire. Afin que ces structures ne disparaissent pas à court terme et se maintiennent en état de fonctionnement, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et de l'enseignement, a annoncé le 17 novembre 2020 la création d'un fonds de soutien pour les associations organisatrices ou gestionnaires de classes de découverte et de colonies de vacances. Doté de 15 millions d'euros, eh bien, ce fonds d'urgence devrait permettre de venir en aide à quelques 3000 structures. Alors ça, c'est pour les structures et les organisateurs de colonies de vacances.
target maman pour faire lui comprendre. Ton maman avec ton papa, tous les deux n'a pas comprendre qui nos misères. Lisby, oh Lisby, dégagez malgré maman pour faire lui comprendre. Ton maman avec ton papa, tous les deux n'a pas comprendre.
Alors, nous arrivons au 17e point. Mais je voulais dire, tout en passant, puisque j'ai annoncé, mais je ne développe pas tous les sujets, il y a les activités du secteur ouvrant droit à l'exonération et à l'aide de paiement des cotisations sociales patronales. Les entreprises de moins de 250 salariés, eh bien, il y a eu un texte qui est venu compléter tout ça. Et pour savoir si vous en faites partie, eh bien, Conseiller d'émaillage de Radio Arc-en-Ciel est là pour vous apporter des renseignements. Hein. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la création d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, l'économie sociale et solidaire, vous savez, je vous avais dit qu'il y avait des sous qui avaient été attribués à toutes les entreprises qui faisaient partie de cette économie sociale et solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, saviez-vous que votre entreprise, hein, de la même manière qu'une association ou bien une mutuelle, peut adhérer aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ? Les structures de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, peuvent prendre des formes juridiques différentes. Néanmoins, leurs valeurs restent les mêmes, la solidarité et l'utilité sociale. Elles sont caractérisées par un mode de fonctionnement démocratique et une utilisation des bénéfices pour le maintien ou le développement de la structure, plutôt que l'enrichissement personnel. Le cadre juridique de ces structures a été renforcé et étendu avec la loi du 31 juillet 2014 en permettant aux sociétés commerciales de revendiquer leur appartenance à l'ESS. Alors, adhérer à l'économie sociale et solidaire, ben, quel avantage que j'aurais de faire ça ? Eh bien, en adhérant à l'ESS, vous inscrivez votre entreprise dans une démarche citoyenne, qualité que vous pouvez valoriser dans votre communication auprès de vos clients, qu'il s'agisse d'acteurs privés ou publics. Adhérer à l'ESS est aussi l'opportunité de se démarquer lors de vos recrutements, en séduisant les professionnels soucieux de l'impact de leur activité sur la société. Par ailleurs, intégrer l'ESS donne accès à des financements spécifiques au niveau régional et national que le site internet BPI France répertorie. Alors, vous pouvez aller là-dessus pour voir. Alors, quelle démarche effectuer pour inscrire son entreprise dans le champ d'économie sociale et solidaire ? Je vous le dirai. Si vous me posez des questions à conseil@radioarc-en-ciel.re, si vous ne pouvez pas aller chercher sur le site internet, parce que l'heure avance. Alors, il y a aussi le label financement participatif de la croissance verte. Comment ça marche ? Eh bien, qu'est-ce que c'est d'abord le financement participatif. Le financement participatif, ou bien crowdfunding en anglais, est né au début des années 2000 avec l'essor d'Internet. Ma prononciation en anglais, vous m'excusez, hein, d'accord, mais je préfère dire en français, c'est le cofinancement participatif. Eh bien, est né au début des années 2000 avec l'essor d'Internet. Il s'agit d'un outil de financement alternatif qui n'utilise que les circuits et outils traditionnels, notamment bancaires, mais fait appel à des ressources financières auprès des internautes afin de financer un projet qui peut être de nature très diverse, culturelle, écologique, artistique, entrepreneuriale, etc. Hein? Cette méthode permet de récolter des fonds sous forme de dons, prêt, investissement, de manière simple et rapide auprès d'un large public via des plateformes de financement participatif. Hein? Alors, il faut savoir que les plateformes de financement participatif tirent leurs revenus des commissions qu'elles prennent sur les sommes collectées, en général 3 et 2% des sommes. C'est-à-dire, cette plateforme, ils retiennent une petite somme, mais normal, elle peut faire travail gratuit, hein? Entre 3 et 12% des sommes qu'ils ont collectées pour vous. Hein, que garantit le label financement participatif pour la croissance verte ? Eh bien, afin de soutenir et mettre en valeur les actions de participation citoyenne et les projets en faveur de transition énergétique écologique, le ministère de la Transition écologique a créé en 2017, en partenariat bien sûr avec l'Association de financement participatif France, France, un label, financement participatif de la croissance verte. Pour le porteur de ce projet, ce label est un outil essentiel car il permet aux éventuels contributeurs d'identifier très facilement les projets de financement participatif de l'économie verte. Alors, pour ce qui concerne cet AVR-là, qui peut faire labelliser son projet, comment faire labelliser son projet, tout ça, conseil et démaillage est là pour vous donner les renseignements ou alors sur le site internet, vous en êtes déjà informé. Alors, il y a particulier employeur, tout savoir sur les services à la personne. Eh bien, si vous envisagez ou bien vous êtes un particulier employeur, eh bien, face à aux conséquences de l'épidémie de Covid, eh bien, les pouvoirs publics de l'USAF ont mis en place une mesure exceptionnelle de chômage partiel à destination de certains salariés à domicile. Alors là, vous allez sur le site de l'USAF. Vous allez pouvoir avoir des renseignements sur les dernières nouvelles concernant les mesures exceptionnelles de chômage à temps partiel, d'accord, chômage partiel. Alors, ce dispositif est mis en place pour le mois de novembre 2020. Et puis bon, etc. Et s'il y a des nouveautés, hein, vous allez sur le site de l'USAF, hein, de votre site à vous, puisque je ne peux pas le développer, le temps avance. Alors, pour ce qui concerne les activités, comment devenir particulier employeur, le CESU pour déclarer et rémunérer votre salarié, etc., ben, je crois que je vais mettre ça pour jeudi prochain, comme d'autres questions que j'avais reportées, puisque, par exemple, la question de Céline, hein, puisque nous arrivons au mail, nous avons le mail de Céline qui nous dit « Bonjour, ma belle-sœur a obtenu son ASPA, l'ASPA, vous connaissez ce que c'est, hein ?» Elle était venue pour demander de l'aide pour sa belle-sœur. Elle a fait le relais, quoi. Elle a passé l'information et parce qu'elle manipule bien l'internet, etc. Et puis elle a un certain niveau assez bien qui peut vraiment aider aussi. Et donc elle a fait passer le relais et donc conseil et démaillage de Radio Arc-en-Ciel a aidé sa belle-sœur dans l'ASPA. Et donc elle vient dire, elle vous est infiniment reconnaissante. Elle dit que sa belle-sœur est infiniment reconnaissante, mais elle n'est pas à l'aise avec la technologie. Donc voilà, comme Céline, notre fidèle auditrice, elle est à l'aise, eh bien elle relaie le remerciement. Mais elle aussi, elle remercie également, mais elle pose une autre question concernant la copropriété. Comme j'ai reçu son mail hier, eh bien, j'avais déjà fait mon petit programme, Céline. Je reviens vers vous par mail pour vous répondre à votre question. Et puis, bien sûr, sur votre question qui est toujours, vos questions qui sont toujours pertinentes, hein, comme toutes celles qui nous envoient aussi, eh bien, je mettrai cette question-là pour jeudi prochain, concernant une question sur la copropriété. Alors, pour ce qui concerne une autre personne qui dit bonjour, madame, on me dit deux sons de cloche. On me dit que je peux déclarer mon compagnon et il doit travailler dans mon commerce et en mon absence. Et une autre personne qui dit non. Et voilà, enfin bref, elle est un peu confuse puisqu'elle va être enceinte et donc voilà. Donc j'ai son numéro de téléphone, je vais aussi étudier sa question et lui répondre et rapporter aussi si ces deux questions-là pour ce qui concerne jeudi prochain. J'ai un autre auditeur qui écrit, qui dit « Bonjour madame, j'ai envoyé un mail à la comptabilité de Radio Arc-en-Ciel pour savoir s'ils ont bien reçu mon virement. » Elle a mis en place son aide à Radio Arc-en-Ciel, à l'association, quoi, serait-il possible d'avoir les renseignements. Alors je l'ai dit en préambule d'ailleurs que ça y est, c'est fait pour ce qui concerne son petit prélèvement qu'elle fait tous les mois pour la Radio Arc-en-Ciel et on la remercie. Alors pour ce qui concerne le Nantais, il dit « Bonjour Annick, bonjour à toute l'équipe, bravo et merci Annick, la réclamation des mails la rédaction des mails que tu nous as fournis ont été déterminants pour ce que l'on souhaitait obtenir. Nous sommes reconnaissants envers votre émission et qui porte bien son nom, le conseil et démaillage plein d'exclamations. Alors, c'est nos amis Nantais, Camille et Bruno. Alors, vous vous souvenez, c'est une histoire de réservation de location meublée et donc les loueurs ne voulaient pas rendre l'argent. Ils avaient fait leur démarche, bien sûr, ils n'attendaient pas que sur conseil d'émaillage et ça n'a pas marché. Eh bien, conseil d'émaillage est allé dans le droit, hein, a étudié le dossier et par rapport au droit a établi un mail et qui a transmis à ces gens-là, c'est pour dire que le mail marche. Alors, pour ce qui concerne la transmission de, puisque notre émission touche à sa fin, hein, avant de vous remercier, auditrice, auditeur, je voulais vous dire que vous avez la possibilité de téléphoner en direct au 02 62 41 66 16 ou alors sur portable 06 92 67 73 25. Pardon, 06 92 67 73 35. Merci, chers auditeurs, auditrices, merci pour votre attention et à jeudi prochain. Merci, Didier.